Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Faire face au cancer, c'est une succession d'étapes. Surmonter l'annonce du diagnostic, s'engager dans un parcours de soins qui peut s'avérer complexe, tant sur le plan humain, technique qu'administratif. Prise en charge, chirurgie, chimio, radiothérapie, calendrier des traitements, retour au domicile. Se familiariser aussi avec une pathologie ultra spécialisée où l'on utilise parfois des mots comme aplasie, carcinome, lymphocyte ou marqueur tumoral. Un parcours personnalisé lors duquel le patient expert est appelé à intervenir. Ce médiateur entre soignant et malade s'appuie sur sa propre expérience, enrichie d'une qualification ou d'une formation validée. Il est question d'autonomie, d'observance. Et ce droit à l'éducation thérapeutique fait partie intégrante de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Ce nouvel acteur de santé, ce patient expert, trouve sa place face à une médecine qui a gagné en performance ce qu'elle a parfois perdu en bienveillance. Avec nous en studio, docteur Maya Gutiérrez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médicale à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Avec nous également Catherine Cerizet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes patiente experte, tout comme vous-même Raymond Merle, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve en ligne de Grenoble où vous avez fondé l'Université des patients où vous enseignez. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons en ligne du Sénégal le professeur Serigne Magaï-Gueye, chef du service d'urologie de l'hôpital Grand Diof à Dakar. Et puis en fin d'émission, comme chaque jeudi, nous retrouvons la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Toujours, bien sûr, votre numéro, c'est celui de l'émission. Vos questions, vos témoignages, 33 1 84 22 75 75. C'est donc à l'occasion, au lendemain des 10e rencontres de la cancérologie française, que nous avons décidé de consacrer cette émission à cette thématique du patient expert. C'était d'ailleurs l'une des thématiques des ateliers de ces rendez-vous, patient expert pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec cette fonction, cette expression. Catherine Cerizet, est-ce que vous avez votre définition personnelle ?
Alors, c'est assez intéressant parce que vous parlez de patient expert, mais on a du mal à faire passer ce mot auprès des professionnels en général, parce que comme si l'expertise était de détenue uniquement par les professionnels scientifiques, etc. Et on parle beaucoup du patient ressource, du patient partenaire, pour éviter ce mot de patient expert. Le patient expert, je pense que c'est quelqu'un qui a du recul par rapport à sa maladie, qui a travaillé, parce qu'on ne devient pas patient expert comme ça, qui s'est renseigné, qui a travaillé, mais l'expertise qu'on acquiert est avant tout une expertise expérientielle. C'est pas forcément, on parle d'expertise profane, j'attache beaucoup d'importance au mot, et le mot profane est compliqué, parce que quand on parle de musique profane, elle est forcément moins bien que la grande musique, donc l'expertise profane du patient serait forcément moins bien que l'expertise des professionnels. Je pense que ces deux expertises sont complémentaires et extrêmement importantes pour que le patient soit mieux soigné, mieux pris en soin.
Et en tout cas, cette expertise, ce savoir-faire, plutôt cette connaissance, elle est aussi basée sur une formation qui est acquise après justement cette expérience de terrain, si on peut dire.
Alors, il y a plusieurs sorte de patient expert, on va dire. Effectivement, aujourd'hui, il y a des formations pour professionnaliser les patients, donc des DU dont Raymond va nous parler, et il y en a d'autres en France. Et je trouve que c'est une très très bonne chose, parce qu'en France, on est très attaché au diplôme. Et quand on a un diplôme, on peut travailler. Or, lorsque vous êtes patient, vous avez souvent malheureusement perdu votre travail, et beaucoup de patients ont envie de faire quelque chose de cette maladie. Donc, effectivement, il y a des diplômes. La Ligue contre le cancer forme aussi le patient ressource qui va arriver, on l'espère, bientôt dans les centres. Mais il y a des patients experts autodidactes, on va dire.
Raymond Merle, justement, à Grenoble, en ligne, derrière vous, il y a un long parcours médical, hein, insuffisance rénale, double greffe. Vous êtes patient expert, vous avez créé cette université des patients de Grenoble. Vous êtes aujourd'hui doctorant, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, à force d'expertise, de spécialisation, vous restez malgré tout un patient. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que vous avez conservé ce ressenti d'usager ?
Tout à fait. D'ailleurs, avant de répondre, je vais vous citer une anecdote. C'est un médecin qui m'a dit, mais Raymond, toi, tu vas devenir médecin. Et je lui dis, non, moi, je suis patient, je reste patient. Je n'ai pas la compétence ni la volonté de devenir médecin. Mais rien ne m'empêche de travailler avec le médecin. Et là, le médecin m'a répondu, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc, en fait, je crois que Catherine le précise très bien, on est chacun à sa place, on a des parcours différents, la maladie nous prend, nous met par terre, nous demande pas notre avis, quand il s'agit de maladies asymptomatiques, et on passe dans une phase de déconstruction complète, hein, c'est une descente aux enfers où tout est bousculé, jusqu'à la perte des proches, etc. Et après une phase de stabilisation, on a une prise de conscience et on commence à engager un processus de rétablissement, un processus de reconstruction, on engage le pouvoir d'agir. On est passé du powerlessness, c'est-à-dire le sentiment d'impuissance vers le pouvoir d'agir et l'empowerment. Et à ce moment-là, on peut se reconstruire et envisager notre avenir. Et Catherine le dit très bien, on passe par des formations, puis des diplômes. Donc l'objectif de l'Université des patients de Grenoble, que j'ai le plaisir de fonder, je vous cache pas que c'est 20 ans de travail, de collaboration avec les médecins, avec tout le monde, pour arriver à cette construction, sur un modèle particulier, puisque on est une université portée par les patients, en collaboration avec l'université, bon, pour nous Grenoble-Alpes et le CHU Grenoble-Alpes, et l'objectif c'est de permettre aux patients et aux aidants, puisqu'on est dans la maladie chronique, d'évoluer à leur propre rythme en fonction des motivations, des contraintes et des difficultés qu'ils rencontrent. Le deuxième objectif, c'est justement d'organiser la rencontre entre les deux expertises, qui sont celles, bien sûr, scientifiques, hein, des initiés, des communautés médicales, paramédicales, et la nôtre, qui est expérientielle, ou profane, ou expérientielle. Et l'idée, c'est d'organiser cette rencontre dans un principe d'humanité, dans le cadre de notre projet hospitalier grenoblois, et dans la dynamique d'enseignement et de recherche. Voilà un petit peu les deux objectifs, et l'idée c'est commencer par former des patients en formation initiale, avec des modèles, on est en dehors de toute pathologie confondue, donc on a créé un modèle de formation qui dure 66 heures et qui est validé par un certificat universitaire, pour la simple et bonne raison qu'on est dans un processus d'accompagnement des patients vers la validation des acquis par l'expérience. En étant sorti de cette validation, je suis particulièrement intéressé par la transmettre. Et une fois que les patients sont titulaires de ce certificat universitaire, complété d'une expérience de terrain, parce qu'ils vont agir, hein, dans des activités d'éducation thérapeutique, des programmes, etc. Et cette double appartenance va leur permettre d'intégrer les diplômes universitaires par la validation des acquis, puisque au regard de l'intégration des diplômes, il faut être titulaire d'un bac plus 2. Or, les patients n'ont pas forcément le bac, encore moins le plus 2. Pour vous donner un exemple, on a des patientes qui sont formées chez nous en formation initiale et qui ont le bac mais qui n'ont pas le plus 2, donc la porte de l'université s'est fermée. Pour ouvrir la porte de l'université, on a fait changer le positionnement des équipes pédagogiques pour intégrer les patients avec la validation des acquis par expérience, 66 heures de formation plus une expérience de terrain qui vaut largement par équivalence la notion du bac plus 2, le prérequis obligatoire.
Catherine Cerizet, l'ancienne patiente, hein, vos traitements contre un cancer du sein sont achevés en 2008. Comment l'ancienne patiente réussit à laisser travailler l'experte? C'est une association des deux ressentis ou des fois il y a ce vécu, hein, qui est encore là, qui revient à la charge. Comment on arrive parfois à mettre ça entre parenthèses?
Donc moi j'ai été malade en 2000, mes traitements sont effectivement terminés en 2008, mais j'ai été malade il y a 17 ans maintenant, donc ça fait très longtemps. Je pense, j'ai été blogueuse très longtemps et je pense que parler de la maladie et devenir expert de ma maladie, ça m'a justement permis de la mettre à distance. La connaître son ennemi, c'est pouvoir mieux le combattre, en fait. Alors, effectivement, parfois, j'ai mes vieux démons qui remontent et j'ai peur parce que j'ai mes examens annuels. Et là, à ce moment-là, je suis plus experte du tout. Mais sinon, je pense que il n'y a pas de dichotomie. C'est vraiment mon expérience qui nourrit mon expertise. Et mon expertise est bien là. Je pense, en tout cas, je l'espère. En tout cas, j'espère pouvoir aider et accompagner le maximum de patients à devenir eux-mêmes empowered, comme le disait Raymond. Empowered, qu'on traduit très mal en français par autonomisé. On a oublié le mot power. Empowered, c'est vraiment ce pouvoir d'agir, agir sur son propre traitement, sur sa propre prise en soin.
Est-ce que ce serait pas plutôt responsabiliser?
Non, parce que on est responsable. Nous sommes des gens responsables. Le mot responsabiliser, c'est encore un mot, à mon avis, qui est très descendant. Non, je pense que c'est vraiment le pouvoir, il vient de l'intérieur. On donne pas le pouvoir, on a le pouvoir. Donc responsabiliser, comme éducation thérapeutique, éducation, c'est encore quelque chose de très descendant. Je pense que vraiment il faut changer le paradigme et se dire que les professionnels de santé et les patients, nous sommes tous nous avons tous le même but, nous sommes tous dans le même bateau et nos expertises, nos forces cumulées feront que les patients seront mieux soignés et s'en sortiront le mieux possible.
Docteur Maya Gutiérrez, qu'est-ce que les patients experts vous apprennent?
Alors, ils m'ont appris plusieurs choses. Déjà, ils sont venus bousculer là où pour moi, il y avait des certitudes qui me venaient de ma formation médicale. Par exemple, et je me suis rendu compte des réponses des fois stéréotypées que je disais aux patients. Par exemple, une patiente à qui je vais dire que le traitement, malheureusement, va lui faire tomber les cheveux, elle va me dire « Oh là là, mais ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il soit long ». Et donc je lui dis oui, mais court, ça prend moins de temps, comme si, alors que c'est son droit, c'est elle va trouver ça dur, que ce soit long ou une femme qui a eu déjà 3 enfants, ah je pourrais pas en avoir un 4e. Oui, mais vous en avez déjà 3. Enfin, toutes ces réponses qui moi, pour moi étaient des certitudes. Oh, mais c'est une sous-cutanée, ça fait pas mal, c'est pas comme une intramusculaire. De m'apporter cette expérience du vécu, de ce côté subjectif, là où moi je ne voyais que de l'objectif et que tout pouvait être calé en des scores, en des que je ne renie pas, parce que j'ai aussi, et c'est pour ça que je pense qu'il y a de la place pour les patients experts, c'est que moi, mon rôle de médecin, c'est aussi de dire voilà, j'ai vu le scanner, j'ai vu les marqueurs, je prescris cela, je baisse les doses, je monte les doses, et donc on ne peut pas tout faire, même si on est à l'écoute de nos patients. On a justement besoin, et par chance maintenant on a des patients experts qui vont venir aussi. Déjà moi, ça a été vraiment aider à comprendre les patients dans leur globalité et savoir que en fait pour moi les patients étaient des personnes qui devaient prendre le traitement et quand les premières études sur l'observance, je me dis mais non, moi c'est pas possible, moi tous mes patients ils prennent leur traitement et me rendre compte non que en fait ils le prenaient pas, mais il y avait pas ce dialogue avec moi et que il y avait peut-être il y a plein de choses qui jouent, peut-être de pas me décevoir, peut-être que il savait que j'allais pas être d'accord parce que pour moi c'était vraiment il fallait qu'il prenne le traitement. Et c'est vrai que effectivement Catherine parlait de l'éducation thérapeutique, il y a des choses qui sont je pense à améliorer dans l'éducation thérapeutique, mais moi le fait de faire cette formation, déjà ça a été de dire mais non, c'est le patient qui est responsable, c'est nous à nous de lui apporter, de mettre les choses autour du patient. Déjà ça a été un changement dans l'approche et de ma relation avec les patients.
Et dans votre pratique de médecin, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que vous avez eu des formations, des échanges pour mieux comprendre, mais est-ce que ça veut dire que parfois on se retrouve en consultation malade, médecin et un patient expert dans la même salle, ça arrive, ce genre de trio?
Alors non, ça, enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, ça n'est jamais arrivé pour plusieurs raisons. Des fois, en fait, le moment où on annonce quelque chose n'est pas le meilleur moment pour le patient d'en parler beaucoup parce qu'il est souvent sous le choc. Et souvent, quand j'explique les choses sur le coup, je me rends compte que les patients me disent oui, oui, mais qu'ils n'ont pas forcément compris l'intégralité de la somme d'informations que je leur donne. Et de plus, il y a des fois des réactions émotionnelles qui sont très fortes. En plus, la consultation, c'est un moment où les patients se déshabillent, où ils sont examinés. Donc, c'est pas forcément ce moment-là le meilleur moment. Mais il faut qu'il puisse y avoir d'autres moments où déjà, on le voit sur des projets ou avec des patients. Et comme le disait Raymond, c'est très très important qu'il y ait des patients experts, mais qui ont fait des formations, qui ont bac plus 2, qui peuvent nous relire un texte à destination du patient sur Word en mettant des modifications, mais aussi des patients qui sont experts, mais qui ne pourront pas, pour diverses raisons, avoir cette vraie formation et cette reconnaissance, mais qui nous apportent aussi quelque chose. Sur leur vécu de tout à fait important, et déjà sur les projets, de dès le départ les intégrer et travailler main dans la main. Et c'est vrai que pour ça, il y a besoin d'une reconnaissance de ce statut de patient expert.
On retrouve Raymond Maire, la Grenoble. On le sait, tout changement entraîne des résistances, qui plus est dans un système aussi structuré que celui de l'hôpital. Quel type de résistance avez-vous justement rencontré dans cette pratique de patient expert?
Alors la résistance, c'est justement ce que disait Maya, c'est la notion de certitude. On est passé de la relation séculaire paternaliste du médecin en qualité de sachant, qui dit voilà, je sais ce qui est bon pour toi, tu fais ce que je te dis, et je te donne des médicaments, etc., etc. On est passé à une relation collaborative, c'est-à-dire que le patient est là, il intervient, il communique avec le médecin. Il apporte ses ressentis, le médecin se trouve dans une situation beaucoup plus d'écoute et d'entente du patient, et c'est cette transformation de la relation, grâce notamment à la méthode employée dans l'éducation thérapeutique, puisqu'on est dans un format pluridisciplinaire et pluriprofessionnel, où tout le monde peut s'exprimer, les blouses blanches tombent, enfin on est vraiment dans une notion d'équilibre, et c'est toute cette relation qui s'est transformée. Alors les réticences, je vais vous donner l'exemple de... J'ai passé un master 2 sur la notion de la place des patients en éducation thérapeutique du patient. Et dans le cadre des focus group, la plus grosse réticence, c'est d'abord l'éducation thérapeutique, d'abord c'est pas les patients, les patients sont pas là, c'est nous. Il a fallu la redéfinir au début. Et puis, pourquoi travailler avec le patient? Non, mais le patient, il fait ce qu'on lui dit. C'est pas... Voilà, c'est cette transformation de la relation qui permet au patient de suivre son chemin pour devenir expert, puisqu'on n'est pas expert, on le devient, et pour apporter un autre regard. Donc c'est une transformation complète, un bouleversement culturel.
Avec moins de frontières entre soignants et malades, Raymond Merle, merci beaucoup d'avoir été en ligne de Grenoble, où je vous rappelle, vous enseignez au sein de cette université des patients que vous avez créée. On va justement aborder en deuxième partie d'émission ces fameuses résistances. On peut peut-être en dire encore quelques mots avec vous, Catherine Cerizet. Vous avez peut-être un exemple concret, vous avez été confrontée à une forme de blocage de la part du corps médical?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le patient qui est expert pour lui-même, c'est-à-dire dans la relation de soins, où là, effectivement, il y a une relation encore très paternaliste. Mais je pense, dès le départ, c'est dû à la formation. Maya en parlait, la formation initiale est extrêmement compliquée des médecins. Et donc, dans ce sens-là, ils apprennent à être paternalistes, si j'ose dire. Et puis, il y a leur relation d'expert pour les autres patients.
On va poursuivre cet échange dans 3 minutes, juste après notre rendez-vous avec l'actualité. Catherine Cerisé, docteur Maya Gutiérrez, vous restez avec nous. Tout à l'heure, on se retrouve donc dans Priorité Santé. À tout de suite.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Et on retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux patients experts en cancérologie. Toujours avec nos invités, docteur Maya Gutiérrez, oncologue médicale à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Catherine Cerisé, patiente experte et patiente enseignante à l'Université Paris 13. Le patient expert, nouvel acteur dans ce parcours de soins, dans l'éducation thérapeutique pour aller vers plus d'autonomie des malades, mieux adhérer aux traitements prescrits, améliorer tout simplement la qualité de vie. Catherine Cerisé, qu'est-ce qui fait qu'un patient fera ou sera un bon patient expert ?
Mais je ne sais pas, Caroline. Je ne sais pas. Je pense que tous les patients ne peuvent pas devenir patients experts et n'ont pas envie de le devenir. Je pense que on peut pas imaginer que tous les patients qui passent par la case cancer deviennent des patients experts. Certains et c'est une réticence qu'on nous oppose souvent. D'ailleurs, vous parliez de réticence tout à l'heure. C'est-à-dire que très souvent, les médecins disent oui, mais moi, mes patients, ils veulent pas devenir experts. Non. Certains patients, il faut le respecter, ne veulent pas dans leur pathologie, ont pas envie de sortir, d'apprendre, etc. Et heureusement pour les universités des patients, parce qu'elles seraient submergées. Donc, je pense qu'il faut il faut respecter le choix de chacun. Maintenant, les qualités d'un bon patient expert, je pense qu'on est tous empathiques, on a tous envie d'aider, on a tous travaillé. Voilà, je pense que ce sont les trois choses.
Juste une petite question complémentaire. Vous êtes formatrice, si on ne parle pas ni des qualités, ni des profils. Malgré tout, qui sont les patients experts aujourd'hui inscrits dans votre formation ?
Alors, dans la formation dont vous parlez, je suppose que c'est de Paris 13.
Tout à fait, universitaire.
Voilà, c'est complètement différent. Les élèves sont les médecins. Les élèves sont les internes en médecine générale et ce sont des patients enseignants en binôme avec des médecins enseignants qui ont décortiqué, si vous voulez, des cas cliniques qui ont posé les problèmes à leurs internes durant leur stage, et on essaye de trouver où a été le nœud du problème et leur donner la vision patient, en fait, cette vision qu'ils n'ont pas toujours en tant qu'internes en médecine. Et c'est extrêmement intéressant pour eux, déjà, je pense, d'avoir cette vision patient. D'ailleurs, on voit qu'ils progressent énormément dans cette prise en soin de leurs patients. Et puis, c'est très intéressant pour nous, patients, de voir que c'est un métier compliqué, difficile, et que ils connaissent pas forcément les lois, les droits des patients, et on leur apprend tout ça. Enfin, c'est vraiment très intéressant. C'est un programme passionnant qu'on espère va être pris par toutes les facultés de médecine française.
Docteur Maya Gutiérrez, votre expérience, les patients experts que vous rencontrez, quels sont leurs profils ? Est-ce que vous avez perçu, par exemple, chez un, ce qui se passe bien, ce qui marche bien, et chez d'autres, peut-être certaines difficultés aussi ?
Oui, alors déjà pour nous, et en tout cas pour l'oncologie, ce qui est très important pour pour quand on travaille avec des patients experts, c'est que ce soit des patients qui ne vont pas être en opposition par rapport à nos traitements. On est prêt à se remettre en question, mais ne pourrait pas être un patient expert quelqu'un qui va dire au patient « il faut arrêter les traitements, il faut se tourner ». Voilà, j'ai déjà eu ce cas de figure, et ça, c'est pas possible. C'est pas qu'on veut pas écouter, mais pour nous, on a quand même notre rôle de médecin, notre expérience, et il faut que c'est un travail qui est collaboratif. C'est un travail de remise en question, c'est un travail d'avancer ensemble. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, effectivement, il faut que le patient expert soit à un moment de sa maladie, de son vécu, une certaine harmonie, qu'il puisse prendre un espèce de détachement quand même de lui, sa maladie, pour pouvoir parler de la maladie, pour pouvoir écouter les autres. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait certains patients qui étaient encore qui ramenaient à leur cas, et bien sûr que c'est leur cas et leur expérience, mais c'est le maître à disposition d'un travail qui ne va pas seulement les concerner, mais qui va concerner un ensemble de patients. Par contre, ce que j'ai déjà vu et qui ne pose absolument pas un problème, j'ai déjà eu des patients qui, dans des réunions et tout, on leur disait bon, et votre avis ? Ah, moi, je suis d'accord. Donc, et on leur explique non, il faut justement, enfin, la peur pour ces personnes qui des fois viennent de milieux où ils sont pas habitués à prendre la parole, ou la peur du pouvoir, il y a des autorités de tutelle qui sont là, des représentants des tutelles, des médecins, des professeurs. Donc voilà, mais ça, c'est à nous de les accompagner. Non, c'est toute parole, justement. Dire juste, on est d'accord, ça, c'est pas ce qui nous fera avancer ensemble.
Est-ce que vous pensez, docteur Maya Gutiérrez, que le patient expert vous décharge d'une partie de votre travail, de vos prérogatives, ou à l'inverse, qu'il enrichit ce travail ?
Alors, en aucune mesure, il peut nous décharger de notre responsabilité, de notre rôle de médecin, d'informer, d'être à la disposition du patient quand il a un problème médical, une question concernant son traitement. Moi, je pense que...
Je vais vous couper juste pour quelque chose d'assez caricatural. Oui. Pas question, par exemple, que ce soit un jour un patient expert qui annonce un diagnostic à un malade. Pas question.
Ah, pour moi, c'est au jour d'aujourd'hui, ça serait totalement impossible. Enfin, pour moi, dans cette annonce, on part souvent de choses objectives qui viennent de résultats, et il y a forcément un moment où c'est un petit peu comme un juge, mais je vois pas comment ce rôle peut être différent. Il peut être encadré ensuite, mais on va dire, on va être obligé de vous opérer. Malheureusement, la tumeur, elle est sur plusieurs endroits. On va devoir enlever le sein, et je vois pas de me décharger de cette responsabilité, de devoir le dire les yeux dans les yeux à mon patient que j'ai suivi depuis des années. Mais par contre, pouvoir expliquer cette décision, l'accompagner, oui, je pense que le patient expert peut apporter beaucoup.
Catherine Cerisier, vous voulez réagir?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Maya. Je crois que on cherche à nous mettre en opposition, les médecins et les patients experts, mais non, c'est vraiment complémentaire. Je vois évidemment aucun patient annoncer un cancer à un autre patient, mais en revanche être là dans un deuxième temps, oui, après l'infirmière d'annonce, pour pouvoir reformuler, réexpliquer et donner des perspectives différentes, je l'imagine très bien.
On va maintenant prendre, si vous voulez bien, la direction du Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver le professeur Serine Magaïgaï, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Grand Diof à Dakar et l'un des auteurs de l'ouvrage Les cancers en Afrique francophone, publié par l'Alliance des 27 ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer. Professeur Serine Magaïgaï, est-ce qu'il existe aujourd'hui des patients experts dans votre pays, le Sénégal?
Merci beaucoup. Je crois que c'est un thème très, très intéressant qui rentre en droit ligne de ce volume dont vous venez de parler. Il n'existe pas encore en tant que tel, de façon structurée, ce qu'on pourrait appeler patient expert au Sénégal.
Est-ce que certes, oui, je suis là. Est-ce que certains patients ont justement, d'après vous, acquis un niveau ou même expriment le désir, la volonté d'aider les autres, d'accompagner les autres malades par rapport à leur propre vécu de la maladie? Vous avez déjà eu, par exemple, des patients dans ce cas?
Absolument. Nous avons eu des patients dans ce cas depuis très longtemps. Dans notre pratique de tous les jours, nous faisons face à des situations où, par exemple, un patient qui a un cancer devrait bénéficier d'un traitement peut-être parfois mutilant, ou bien qui peut parfois modifier son image corporelle, laquelle modification pourrait peut-être avoir des implications culturelles et sociales, et les mettre en contact avec des patients qui ont déjà bénéficié de ce type de traitement, qui ont pu peut-être surmonter les difficultés, se réadapter, vivre une vie normale, aide beaucoup à la prise de décision. Et je pense que la dernière partie de l'intervention, parlant de complémentarité et d'accompagnement, me paraît être ce qu'il faudrait faire. Ces patients sont utiles pour nous aider parfois à convaincre certains autres de la nécessité de bénéficier, par exemple, des santé des traitements.
Ça veut dire que vous ne pensez pas que certains médecins, hein, au Sénégal, comme d'ailleurs ici en France, pourraient avoir l'impression de perdre un petit peu leur statut au profit justement de ces malades qui viendraient donner d'autres informations. Vous ne pensez pas qu'il y aurait des résistances de ce côté-là?
Je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir des patients qui viennent donner des informations qui iront en porte-à-faux avec les convictions des médecins. Nous avons l'avantage encore dans nos milieux en Afrique en général, au Sénégal en particulier, d'avoir gardé une médecine relativement sociale et très humaine, qui, communauté, de passer à la solidarité de tous les jours, ce qui fait qu'en dehors même de la structuration des patients experts, la communauté est impliquée dans le soin d'un membre de la communauté. Donc quand on doit prendre une décision, la communauté fait partie. Maintenant, le fait d'avoir des patients bien informés, qui ont vécu eux-mêmes le suite de la situation et qui viennent contribuer à donner une information dans le sens de ce que les médecins veulent, je pense que c'est une très très bonne chose.
Professeur Cyril Magaïgaï, vous disiez tout à l'heure que vous mettiez parfois les patients en relation. Vous attendez que le malade le demande ou des fois vous anticipez, vous dites « bon, cette personne a par exemple pas très bien compris ce que je lui ai expliqué sur sa maladie ou ressent une profonde douleur, je sens qu'il ne va pas surmonter l'épreuve, je vais de moi-même décider de donner des coordonnées ou de faire venir quelqu'un qui va pouvoir lui parler ».
Je pense que c'est surtout à la demande. En général, bon, nous avons encore un certain degré de fatalisme vis-à-vis de la maladie qui, malheureusement, est encore là. Mais si on explique bien aux patients, souvent ils comprennent. La famille intervient aussi, parce que n'oubliez pas que pas plus de 5% de nos populations sont autonomes en termes de prise en charge. Donc c'est la société, c'est la solidarité familiale qui assure les soins. Donc c'est un élément quand même de qui peut appuyer à la décision. Maintenant, quand il s'agit de cas où le malade vraiment a peur, parce qu'on lui dit, voilà, on va t'amputer le sein, ou bien tu vas bénéficier d'une intervention sur la prostate avec les conséquences que l'on connaît, ou bien l'amputation d'un membre qui est cancéreux, dans ces cas, il y a des malades qui vraiment opposent une résistance par le feu. Il se pourrait parfois que nous puissions faire appel bien sûr, à leur avis, s'ils sont d'accord, pour les mettre en contact avec des personnes qui peuvent aider. Mais il y a aussi un élément important. Très peu de personnes sont enclines à venir parler de leur maladie. C'est-à-dire quelqu'un qui a été malade, qui l'a vu, qui l'a vécu, et c'est pas spontanément qu'il viendra en parler. Donc il y a très peu de patients comme des patients experts, contrairement à ce qu'on retrouve dans les associations de survivants de cancer qui sont dans les ligues, c'est pas la même chose. Très peu de gens vraiment veulent sortir spontanément, mais très peu aussi actuellement sont en demande de relations d'aide avec une patiente qui peut les aider parce qu'elle a vécu la même situation à prendre la bonne décision.
Merci beaucoup à professeur Cyril Magaïgaï. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Grand Diof à Dakar au Sénégal. On a parlé du Sénégal, on a parlé de la France. Catherine Cerizet, est-ce qu'il y a des échanges avec des étudiants venus de l'étranger et des retours d'expérience hors des frontières françaises?
Alors, il y a de nombreux échanges entre les patients, notamment avec le Canada qui est très en avance sur nous. Chez eux, on l'appelle pas, on ne dit pas patient expert, on dit patient partenaire. On a des échanges avec beaucoup de pays. J'ai été récemment à un grand congrès sur la décision partagée, la décision médicale partagée. Il y avait, je crois, 67 pays représentés. Donc oui, on parle beaucoup entre nous et c'est très bien. C'est très bien, ça fait avancer les choses.
Une dynamique internationale. Pour revenir un petit peu en arrière, on approche de la fin de l'émission. Retour en arrière, la dynamique du patient expert, elle a été initiée par des malades du sida, docteur Maya Gutiérrez. Est-ce qu'il y a des spécificités, voire des spécialisations en fonction des maladies, des pathologies? Est-ce qu'il y a une expertise cancer, une expertise sida, je dirais une expertise sur les maladies inflammatoires de l'intestin? Comment ça se passe?
Oui. Alors, il y a deux aspects. Premièrement, il y a des choses qui vont être, je pense, spécifiques à des maladies, à des traitements. C'est vrai que, comme disait mon collègue tout à l'heure, des patients à qui on va amputer d'un membre, que ce soit pour une raison traumatique ou pour une raison tumorale, ils vont avoir vraiment des demandes qui vont être spécifiques et que peut-être quelqu'un, par exemple, qui souffrirait d'un problème de santé très très différent, ne pourra peut-être pas forcément répondre. Donc il y a, je pense, des spécificités, mais pas forcément de maladies, de groupes de maladies. Je pense que le cas des patients HIV atteints de du virus HIV, voire de sida, est très très emblématique pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont venus batailler avec les pouvoirs publics pour se faire entendre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est un exemple pour tous les patients. Et la deuxième chose, c'est la notion, là aussi, à ce moment-là, et je pense que malheureusement ça l'est encore, le sida était considéré comme une maladie honteuse qu'il fallait cacher. Il y a beaucoup de choses. Nous, les patients, on va cacher que les traitements, ça rend pâle. On va cacher que le traitement, ça fait tomber les cheveux. On va cacher qu'il manque un sein. Nous, médicalement, on essaye d'apporter toutes ces réponses, mais d'avoir les associations de patients viennent là où dire non, c'est pas honteux. Non, il y a des associations qui montrent qu'on peut se faire tatouer la peau au lieu de porter une prothèse et viennent apporter cette voix.
Une voie du parler vrai, hein, faire tomber les frontières entre ceux qui détiennent ce savoir médical, ceux qui le produisent, ceux qui souffrent, ceux qui bénéficient de ces traitements. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à nos invités en studio. Docteur Maya Gutiérrez, oncologue médicale à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Merci à vous, Catherine Cerizet, patiente experte et enseignante.
Merci.
Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
On vous retrouve pour parler d'amour et surtout essayer de nous expliquer comment rester amoureux.
Oui, alors je voudrais expliquer comment on peut utiliser notre intelligence pour stimuler les sentiments que nous ressentons et en particulier les sentiments amoureux. Pourquoi ? Parce que je trouve que beaucoup de personnes ont l'impression que les sentiments, c'est un peu de la magie et que l'amour, il vous tombe dessus comme ça par hasard ou il s'en va sans qu'on puisse rien faire. Et donc à ce niveau, on est totalement passif. Or, c'est faux. On peut apprendre à aimer et à être amoureux.
D'où ces conseils, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors la première chose pour moi, c'est de fuir les pensées négatives à propos de votre partenaire. Donc, bien sûr, quand on est en couple depuis un moment, même si on est très amoureux au début, il y a toujours un moment où il peut vous énerver, vous irriter, même vous désoler. C'est tout à fait normal. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous y pensez, il ne faut pas se saisir de ces pensées et les ruminer, les alimenter. Se dire non seulement il a fait ça, mais en plus cela et aussi cela, parce que sinon vous allez donner de plus en plus de force à ces pensées négatives et ça va finir par abîmer l'amour que vous ressentez.
Alors là, on comprend bien, mais c'est pas si simple à faire en pratique.
Ben non, c'est vrai parce qu'on a naturellement des pensées négatives. Mais ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Dès que vous avez une pensée négative qui vous vient, il faut décider volontairement de penser à autre chose. Ça peut être à votre travail, à vos enfants, à ce que vous voulez. Et quand on a beaucoup de mal, quand on est dans une phase très négative par rapport à son conjoint, quand on a une pensée négative, on peut même se dire « j'arrête et je chante une petite chanson dans ma tête ».
Alors, est-ce que ça risque pas de revenir à vitesse grand V ?
Oui, alors vous avez raison, au début, ça revient à vitesse grand V. Mais ce qui se passe, c'est que plus on pratique cet exercice, et moins les pensées négatives vont venir. Parce que en détournant ces pensées, on désactive les circuits mentaux et petit à petit vont s'activer de moins en moins souvent. Et donc, plus on détourne nos pensées négatives, plus c'est facile.
Alors là, on parle quand on a un partenaire agréable, peut-être de temps en temps un petit peu embêtant, mais agréable. Mais alors, par contre, quand on vit avec quelqu'un de très désagréable, voire carrément d'horrible, voire même quand il y a des violences, des insultes, difficile de penser à autre chose. Et puis peut-être même qu'il ne faut carrément pas penser à autre chose.
Oui, vous avez raison. Moi, je parle de cultiver l'amour. Quand on se dit on s'aime, ces temps-ci, c'est un petit peu difficile. Peut-être qu'il faut essayer de résoudre cette crise. Mais je parle pas de supporter un partenaire qui ne vous respecte pas. Parce que là, c'est très différent. Quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas respecté, tout simplement, ben, il faut pas essayer de supporter ce qui est insupportable.
Et d'autres conseils alors pour cultiver l'amour avec quelqu'un qui en vaut la peine.
Voilà, avec quelqu'un qui en vaut la peine, le deuxième aspect, c'est qu'il faut stimuler les pensées positives. Donc, ce que vous aimez chez l'autre. Donc, ça veut dire que chaque jour, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que j'aime chez l'autre dans son caractère, dans son physique? Et moi, je demande à mes patients de faire un exercice et de dire une phrase dans sa tête, de dire par exemple, si je suis votre mari, j'ai de la chance d'être en couple avec Caroline parce que... Et je finis la phrase. Et je peux faire 50 phrases comme ça.
Parce des milliers.
Des milliers même, voilà. Exactement, voilà, parce que vous en valez la peine. Et donc, si vous faites ça régulièrement, c'est pas juste pour vous auto-persuader, mais c'est aussi parce que vous activez vos circuits positifs dans votre cerveau et qui vont devenir de plus en plus puissants et vous allez vous sentir de mieux en mieux.
Et puis, on peut aussi réactiver comme ça des sentiments que le quotidien a un petit peu abîmés, parce que des fois, le train-train, la vie de tous les jours, ça gomme un petit peu les qualités de l'autre.
Voilà, exactement. On a des petits énervements. Et alors, on sait que on a trois fois plus de pensées négatives que positives naturellement, parce que notre cerveau cherche à résoudre les problèmes. Donc, si on cherche que, ici, cherche tout le temps les problèmes vis-à-vis de votre partenaire, ben, il en trouve. Et donc, ça, ce dont je parle, ce sont des méthodes qui font partie des TCC, les thérapies comportementales et cognitives. C'est ce qu'on appelle le versant cognitif, c'est-à-dire travailler sur nos pensées. Et c'est très efficace.
Alors, d'autres petites méthodes, hein, pour bien conseiller, pour cultiver cet amour.
Alors, des choses toutes simples, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on sait, c'est-à-dire les choses qui augmentent l'amour et les sentiments. Par exemple, la musique. Écouter ensemble des musiques romantiques ou regarder un film romantique, eh bien, ça stimule les sentiments d'amour. Et le sens de l'audition, c'est très important en amour. Donc, faire des compliments, c'est-à-dire ne pas garder pour soi les pensées positives qu'on a, mais les exprimer, ça aide à augmenter l'amour aussi. Et puis, ça active vos circuits positifs.
Pensées positives, hein, on utilise cette expression depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez encore un dernier conseil peut-être à ajouter pour les couples qui nous écoutent?
Alors, le dernier conseil très important, c'est d'activer les souvenirs. C'est-à-dire de regarder des photos de quand on s'est connus, de dire tu te rappelles quand on s'est rencontrés ou quand on a dansé la première fois, etc. Et ça fait remonter les émotions du début. Et ça, c'est très activateur d'amour, je dirais.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue. On prend tout de suite une auditrice en ligne avec les réponses du docteur Catherine Solano, sexologue. Cette auditrice, c'est Ndaye Fatou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Dakar, au Sénégal. Je vous laisse exposer votre question.
Bon, ma question, elle est que depuis l'année dernière, j'ai fait une méthode contraceptive. Bon, vous savez, comme il y a plusieurs méthodes de contraception, bon, ici au Sénégal, il y en a que ce qu'on appelle le brin, il y a les pilules, il y a un appareil qu'on met devant la femme. Tout ça, c'est des méthodes de contraception. Mais moi, j'ai choisi de prendre des brins. Bon, les brins, c'est à mettre au bras de la femme. Bon, ça t'évite de tomber enceinte. Une année, deux ou trois ans, ça varie quoi, de 3 à 5 ans.
Un implant sous-cutané.
Oui, bon, moi j'ai choisi le brin. Depuis que je l'ai choisi, en plus que depuis qu'on me l'a implanté dans le bras, depuis lors, j'ai pas vu mes règles, donc je suis inquiète.
Mm-hmm. Docteur Catherine Solano.
Alors écoutez, ben c'est tout à fait normal. Non seulement c'est normal, mais c'est bien parce que quand on met un implant au niveau du bras, c'est un petit bâtonnet qui délivre. Si vous voulez, il y a des hormones dedans et petit à petit, les hormones passent dans le sang. Et le but, c'est de bloquer les ovulations. Et donc, quand les hormones fonctionnent bien, eh bien, il n'y a plus d'ovulation. Et comme il n'y a plus d'ovulation, ben, il n'y a pas de règles parce que les règles, ça s'est déclenché 14 jours après l'ovulation. Donc, c'est le signe que votre contraception fonctionne très bien.
Et ça veut dire, pour rassurer justement Ndaye Fatou, que ce n'est pas dangereux, c'est inhérent, c'est normal avec ce système.
Non, c'est tout à fait normal avec ce système et c'est même très bien parce que, si vous voulez, un des problèmes de ce système de contraception, c'est les saignements. Il y a des femmes chez qui les hormones sont pourtant efficaces, mais elles ont une réaction du corps, elles ont des petits saignements très souvent et c'est très très gênant, donc on est des fois obligé de l'enlever. Donc quand une femme n'a pas du tout de saignement, on est très content. Ça veut dire que c'est vraiment une contraception contraception qui est bien efficace et que vous la supportez bien. Et ce que je voulais vous dire qui est extrêmement important, c'est que cette méthode de contraception, c'est la méthode la plus efficace de toutes les méthodes. C'est avec l'implant qu'on a le moins de grossesse, beaucoup moins qu'avec la pilule, beaucoup moins qu'avec les stérilets, beaucoup moins qu'avec les préservatifs. C'est vraiment une méthode, c'est presque efficace à 100%. Donc quand on la supporte bien, c'est vraiment une bonne chose.
Bon, en fait, le fait de ne pas aussi voir les règles après quand je vais l'enlever, j'espère que ça n'aura pas de problème sur ma santé aussi, ou de vouloir tomber aussi enceinte quand je vais l'enlever. J'espère que ça ne va pas me poser de problème.
Voilà, alors, il faut savoir que les règles, quand on ne prend pas de contraception, on a des règles. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de l'utérus, il y a la muqueuse, il y a des cellules qui poussent pour préparer un petit nid pour un bébé. Et donc, tous les mois, bah, ce petit nid, il s'auto-détruit et puis il est éliminé, c'est les règles. C'est pour ça qu'il y a des petits morceaux dans les règles souvent, parce que c'est pas que du sang. Quand on prend une contraception comme vous, à l'intérieur de l'utérus, ça ne pousse pas, donc il n'y a rien à éliminer. Donc si vous voulez, il n'y a aucun danger. Je dirais même au contraire, c'est que les femmes qui ont des règles naturelles, quand elles saignent beaucoup, elles peuvent avoir un manque de fer parce que dans le sang, on élimine du fer, alors qu'avec votre contraception, vous risquez pas d'avoir d'anémie, de manque de fer.
Et si Ndeye Fatou justement décide d'arrêter cet implant, il y a des délais, comment ça se passe après ?
Pas spécialement, il suffit d'enlever votre petit implant chez le médecin, évidemment, pas vous-même, et puis vos cycles vont redémarrer, pas forcément, vous n'allez pas forcément avoir des règles 28 jours après parce qu'il faut que votre ovulation se remette en route, mais ça redémarre très bien, il n'y a pas spécialement de problème d'infertilité après ce genre de traitement. Je dirais même qu'on sait à l'heure actuelle que quand on met l'ovulation en sommeil, il y a même moins d'infertilité après que si on n'avait rien fait, tout simplement parce qu'il y a des maladies, des kystes à l'ovaire et tout qui se développeront moins facilement. Donc, il n'y a pas de problème de fertilité après.
Ndeye Fatou, le docteur Solano a répondu à votre question. Vous êtes rassurée ?
Ben, bien sûr, je suis même soulagée. Je suis soulagée, alhamdulillah.
Bonne journée à vous, excellente journée, au revoir. Priorité Santé touche à sa fin. Demain dans l'émission, nous parlerons de la lutte contre les violences faites aux femmes à l'occasion de la Journée mondiale. Vos témoignages, vos questions, 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.